Place du Capitole, 97.9.
Il est midi, soyez les bienvenus sur Radio Présence. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce magazine Présence Midi en direct avec à mes côtés Androse Jankovic. Bonjour Androse.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Alors vous êtes avec nous et avec vos invités dans un instant.
Oui, nous allons avoir plusieurs invités aujourd'hui dans cette émission. D'abord Monseigneur Bertrand Lacombe, archevêque d'Auch, qui nous donnera des nouvelles de son diocèse. Nous allons parler des terres d'espérance, de rogation, des vocations, de la Pentecôte également qui approche. Et puis dans une seconde partie d'émission, un tout autre sujet, nous allons parler de la prévention montagne, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu plus d'accidents mortels en montagne que d'accidents mortels sur les routes dans les Hautes-Pyrénées en 2025. Aussi, le département des Hautes-Pyrénées lance une opération prévention montagne avec plusieurs partenaires, dont le parc national des Pyrénées. On décortique tout ça dans quelques instants.
Et dans un instant, on va aussi décortiquer l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, puisque nous serons en duplex avec Nathalie Chambon, qui est la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne. Elle va nous parler depuis ses bureaux à Bayonne et on va détailler l'agenda béarnais. Voilà pour un aperçu de ce
qu'est-ce
beau programme.
Qu'est-ce qu'on voyage ? La montagne, le Gers, le Béarn.
Exactement. Et un salut à tous les auditeurs qui nous écoutent sur ces différentes zones. Pour le moment, on va s'intéresser à l'actualité régionale. Pour cela, on a le plaisir d'accueillir Sacha Baudet-Pouplier, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve pour les titres à la une de l'actualité régionale.
Le canal du Midi célébrera cette année les 30 ans de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO avec plus de 120 événements organisés en Occitanie. À Toulouse, la European School of Law confirme son excellence dans les formations européennes en droit et lance un nouveau guide pour préparer les carrières européennes de ses étudiants. À Decazeville, une mobilisation importante s'est tenue devant l'hôpital pour défendre les urgences et réclamer davantage de moyens pour l'accès aux soins. La reprise des travaux sur la RN20 en direction de Landore entraînera plusieurs perturbations de circulation dans les prochains jours. Dans le Lot, la fête des fromages mettra cette année à l'honneur les 30 ans du Rocamadour AOP, avec dégustation et animation autour du patrimoine gastronomique local. Et puis enfin, le handball club de Lourdes disputera prochainement à Bercy la première finale nationale de son histoire en Coupe de France fédérale.
Merci à Sacha Baudet-Pouplier, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouvera à 12h31 pour développer ses titres dans le journal.
Présence à Salis-du-Salat, 94.1.
L'agenda des diocèses, c'est tous les jours sur Radio Présence. Et aujourd'hui, on s'arrête à Bayonne où nous attend Nathalie Chambon. Bonjour Nathalie.
Bonjour Gilles.
Vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. On va détailler une partie de l'agenda béarnais. Pour commencer, on va parler de cette exposition itinérante sur Antoine Chevrier. C'est proposé par la famille du Prado.
Oui, tout à fait. Donc cette expo itinérante qui va parcourir nos églises et nos lieux du 14 mai au 5 juillet. Donc c'est autour de la figure du bienheureux Antoine Chevrier avec le thème « Suivre Jésus pauvre ». Donc cette semaine jusque donc vendredi 22 mai, elle est à la Maison diocésaine Saint-François-Xavier à Pau. Et ensuite, du 23 au 25 mai, elle sera à l'église de Soumoulou. Toutes les infos, bien sûr, sur le site diocèse64.org.
Si on souhaite découvrir ou redécouvrir Saint Augustin, docteur et père de l'église, eh bien, la formation permanente du Béarn propose plusieurs sessions.
Oui, et donc ce 21 mai, ce soir, c'est donc la dernière soirée de ce cycle. Mais vous pouvez venir, même si vous n'avez pas été aux autres. C'est donc, oui, vous l'avez dit, retrouver un petit peu la figure de Saint Augustin. Ça a lieu à la Maison diocésaine Saint-François-Xavier. Toujours une bonne raison de passer dans cette belle nouvelle maison diocésaine qui est donc au 35 rue Montpensier à Pau. C'est à 20h30.
Autre temps fort dans le diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron ce week-end, 22, 23 mai, c'est la commémoration de la transverbération du cœur de Sainte Marie de Jésus crucifié.
Oui, tout à fait. Donc c'est à la Maison Saint-Michel, hein, avenue Trespoil à Pau, autour de plusieurs temps forts, les vêpres chantées par un petit chœur. Ensuite, il y a une conférence sur donc Sœur Mariam, procession au flambeau, d'autres animations avec bien sûr la messe solennelle le samedi 23 mai à 11h. Voilà, vous retrouvez le programme complet sur le site du diocèse. Vraiment, c'est un beau moment autour de cette belle figure de notre Sainte Marie de Jésus crucifiée, donc du Carmel de Pau.
Les fraternités franciscaines d'Aquitaine organisent leur journée annuelle et c'est ce samedi.
Tout à fait, de 10h à 17h, donc c'est au sanctuaire de Sainte-Quitterie à Doumy, avec ce thème autour de la figure de Saint-François d'Assise, hein, 800 ans après la Pâque de Saint-François, que faisons-nous de son rêve ? Il y aura des témoignages, un temps de partage, des enseignements, ne pas oublier son pique-nique. Vous pouvez vous inscrire donc auprès de la fraternité Saint-François, pardon, de la fraternité franciscaine d'Aquitaine, en allant sur notre site également.
Soutenir les aidants, c'est le thème d'une formation qui est proposée par l'équipe diocésaine de la pastorale de la santé, le service évangélique des malades.
Tout à fait, ce sera donc le 28 mai de 9h30 à 16h30. C'est donc à la Maison Saint-Michel, hein, à Pau, avenue Trespoil. Vraiment important, hein, de savoir comment nous pouvons aider, soutenir nos aidants si précieux pour prendre soin de nos plus fragiles. Autour de dans ce programme, bien sûr, il y aura des échanges, il y aura l'abbé Sébastien Baudry, prêtre sur le terrain, qui viendra nous faire une petite conférence également, temps important pour tous ceux qui veulent mieux se former pour accompagner les plus fragiles.
Voilà, c'est pas ce jeudi, c'est jeudi prochain, le 28 mai,
hein, oui,
voilà,
tout à fait.
À la Maison Saint-Michel, à l'avenue Trespoil à Pau, voilà. On part à côté de Pau, à quelques kilomètres de Pau, à Morlas, avec cette lecture priante de l'Évangile selon Saint Matthieu.
Oui, tout à fait. Donc, ce sera de 18h à 20h à la maison paroissiale de Morlas, également ce jeudi 28 mai. Vaut mieux éventuellement s'inscrire. C'est le dernier cycle de cette lecture priante, mais n'hésitez vraiment pas à venir, même si vous n'avez pas pu participer avant. Vraiment, on retrouve la saveur catéchétique, ecclésiale et fraternelle autour de cette Lectio Divina.
Et enfin, on termine cet agenda avec la pastorale familiale du diocèse de Bayonne-Lescar-et-Oloron et la communauté de l'Emmanuel qui vous invite à participer à des veillées pour la vie. La prochaine date, c'est pas ce vendredi, mais vendredi prochain.
Oui, c'est vendredi 29 mai, hein, à l'aube du week-end où on fêtera les mamans le 31 mai. Très important de prier pour la famille, pour les enfants à naître, pour la vie. Donc cette veillée qui aura lieu de 20h30 à 22h à Notre-Dame du Bout du Pont sera présidée par le vicaire général, l'abbé Biche. Vraiment, je vous invite déjà à noter la date et à très nombreux pour porter toutes nos familles dans la prière.
Voilà, c'est la troisième date. Il y a déjà eu deux dates, c'était en novembre et en février, et là, vendredi 29 mai, donc dès 20h30 au sanctuaire Notre-Dame du Bout du Pont à Pau. Voilà pour une partie de l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, diocèse64.org, c'est le site internet de votre diocèse. Et moi, il me reste qu'à vous remercier, Nathalie Chambon. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à Bayonne et on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Gilles. Merci, au revoir.
Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was, oh, when he was, when Jesus was, it was the sins away.
La voix de Florent Pagny à 12h12. Très bon appétit à vous qui nous écoutez avec la suite de Présence Midi et Anne-Rose Jankovic et ses invités.
Radio Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
De plus en plus de personnes sont attirées par les activités de montagne, randonnée, trail, VTT, vol libre. L'arrivée d'un public croissant et parfois peu ou mal informé demande une vigilance particulière en montagne. Voilà pourquoi le département des Hautes-Pyrénées lance l'opération Prévention Montagne avec une dizaine de partenaires, dont le PGHM, la MAIF, le Parc National des Pyrénées par exemple. Cette opération permet de porter des messages de prévention, les bonnes pratiques et les gestes à adopter en allant directement au contact des randonneurs. Pour l'été 2026, 20 opérations sont programmées du 7 juillet au 28 août dans différents lieux, ceux qui sont les plus fréquentés dans les Hautes-Pyrénées, les marchés d'Argelès-Gazos, de Lucin-Sauveur, le lac d'Estaing, le pont d'Espagne, les offices de tourisme, les portes de la vallée du Rioumajou, Saint-Lary-Soulan, Gavarny ou encore le col du Souleur ou le refuge de la Soula. L'objectif est de délivrer des messages simples sur les thèmes suivants: la préparation à la randonnée, les règles à respecter en montagne, le matériel indispensable à emporter, l'alimentation, l'hydratation, etc., etc. Des conseils qui peuvent sembler tout à fait dérisoires, mais qui sont essentiels pour éviter les situations d'accidents, voire de drames, car il faut savoir qu'en 2025, il y a eu plus d'accidents mortels en montagne que d'accidents mortels sur les routes dans les Hautes-Pyrénées. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment peut-on éviter cela? Réponse avec Jean-Michel Rodet, commandant adjoint au PGHM de Pierrefitte-Nestalas.
Donc en fait, ça s'explique par une année particulière, certainement avec des conditions nivologiques en début d'année qui ont été compliquées et qui ont occasionné donc le décès de plusieurs pratiquants de la montagne en hiver.
Ça veut dire qu'on pratique moins bien la montagne, qu'il n'y a plus de bonnes habitudes. La montagne, elle n'a pas changé, il y a toujours eu du monde en montagne. Qu'est-ce qui fait que les accidents augmentent?
En fait, c'est la fréquentation qui fait augmenter automatiquement le nombre de secours en montagne, quoi, hein. Alors pourquoi elle est plus mortelle certaines années que d'autres? C'est souvent lié donc aux conditions hivernales qui peuvent être particulièrement difficiles, mais pas que. Certainement aussi par le comportement des pratiquants qui n'ont pas forcément toujours bien mis de tout ce qu'il fallait, voilà, pour que tout se passe bien, quoi.
Tout ce qui va, c'est-à-dire des personnes qui finalement ne sont pas tellement habituées et partent avec un équipement qui n'est pas suffisant ou qui n'est pas adapté.
Voilà, ça peut être ça, et puis qui n'ont pas évalué potentiellement la difficulté qu'ils pouvaient rencontrer en montagne, soit par le parcours, soit par la météo, soit par leur préparation, voilà.
Finalement, quand le PGHM intervient, c'est pas seulement pour des accidents très graves, ça peut être parfois juste des mauvaises habitudes ou voilà, un comportement un peu inadapté, mais qui aurait pu être évité.
Voilà, et c'est pour ça qu'on se félicite en fait de cette action de prévention où on va multiplier la communication auprès donc de tous les pratiquants de la montagne pour qu'ils puissent être sensibilisés sur le fait que la sécurité en montagne, c'est le fait de tous. Du coup, par quelques bons réflexes, on arrive à limiter effectivement, on l'espère, le nombre de secours par quelques bons comportements, se renseigner sur la météo, être bien équipé, avoir suffisamment à boire, à manger, ne pas boire dans les ruisseaux par exemple. On a eu l'été passé beaucoup d'interventions liées à ce problème là ensuite on a des actions de prévention auprès des trailers, les trailers qui font souvent le transfert d'une activité qu'ils peuvent avoir en périurbain voire en urbain et qui viennent découvrir la montagne et courir en montagne. Et où forcément ils n'ont pas forcément les codes nécessaires à la pratique de la course en montagne en toute sécurité.
Donc la fréquentation a augmenté et le public s'est diversifié, puisque là on entend donc les trailers, c'est une catégorie de public, mais les familles, c'est un autre message peut-être à faire passer quand des familles partent avec des enfants assez jeunes en montagne. Enfin, est-ce que vous avez vous constaté que le public aussi s'est diversifié?
Oui, effectivement, on a constaté le changement changement de profil post-Covid, où effectivement on a eu donc pas mal de familles aussi qui revenaient vers la montagne, soit pour chercher de la liberté, soit pour chercher de l'air frais. Et effectivement, donc là, il y a aussi des actions de prévention pour leur indiquer comment se comporter sur les zones pastorales où ils sont confrontés donc à la présence de troupeaux, à la présence de chiens de garde.
Et ça ne veut pas dire que le pastoralisme et le tourisme sont en opposition, mais parce qu'ils sont sur le même territoire, il faut que tout ça puisse cohabiter. C'est possible.
Tout à fait, c'est complètement possible de cohabiter donc avec le pastoralisme et avec le tourisme. Et il faut juste que les gens qui pratiquent la montagne aient la connaissance du comportement du chien qui protège son troupeau et qui soit en mesure d'analyser son comportement qui n'est pas forcément une agression. Alors certes, il va se mettre à aboyer entre le troupeau et le randonneur, mais c'est pas pour ça qu'il va être forcément dangereux. D'accord ? Lui, il fait juste son travail, il dit attention, je garde mon troupeau.
Sur les opérations de prévention que vous allez en mener un petit peu partout, enfin en tous les cas dans les sites très fréquentés des Hautes-Pyrénées pendant tout l'été, là, juillet, août. Donc ça veut dire que vous posez un endroit avec vraiment cet objectif de faire passer le message. Hein. Donc l'objectif, c'est de parler aux gens avant qu'ils aillent en montagne. Est-ce qu'ils sont réceptifs à ce genre de prévention? Finalement, ils ne viennent pas en vacances pour être en kikinés. Est-ce qu'ils apprécient? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce qu'ils posent des questions? Est-ce qu'ils sont attentifs et curieux à ce que vous avez besoin de leur dire?
Oui, en règle générale, ils sont attentifs, surtout qu'on intervient, donc on est en tenue. Oui. Et puis le message qu'on essaie de leur faire passer, voilà, c'est un message quand même de bienveillance et de sécurité. Donc en général, ils accueillent le message de façon positive. Oui.
Quels sont les trois conseils principaux que vous leur donneriez à tous, hein, quel que soit le profil? On a dit qu'il y avait des profils très divers, mais vraiment les conseils pour tout le monde qui sont vraiment à retenir quand on va en montagne?
Le premier conseil, c'est de préparer sa sortie en montagne, c'est savoir où est-ce qu'on va aller. Ce qui n'est pas forcément le cas. Des fois les coureurs ne téléchargent qu'une trace GPS, oui, qu'ils mettent sur leur montre et qui n'ont pas pris le temps de confronter à une carte. Voilà, donc préparer sa sortie en montagne, consulter la météo. Être bien équipé parce que le temps change vite en montagne et savoir renoncer. Voilà, savoir renoncer quand on...
C'est dur ça.
Et c'est ça qui est un petit peu difficile, ouais, oui, effectivement.
Vous intervenez bien sûr toute l'année. Donc quelle est la saison la plus difficile, la plus risquée, été, hiver? Ce ne sont pas les mêmes risques, mais le PGHM intervient plus à quel moment?
Bon, la période estivale est quand même bien chargée pour nous sur les mois de juillet août avec effectivement la hausse de la fréquentation qui est la plus forte à ce moment de l'année. Mais on intervient aussi beaucoup en hiver puisque donc on intervient aussi au profit des stations de ski pour les cas les plus graves.
Est-ce qu'on a une estimation de nombre d'interventions, peut-être si on se base sur les chiffres de 2025?
Oui, donc en fait, uniquement pour le PGHM de Pierrefitte, 350 interventions donc pour l'année 2025. Voilà, donc on multiplie par deux avec les services des CRS qui font à peu près le même nombre de secours que nous.
Jean-Michel Rodet, commandant adjoint au PGHM de Pierrefitte, Nestalas. L'action prévention montagne démarre donc le 7 juillet et durera jusqu'au 28 août, un petit peu partout dans les Hautes-Pyrénées. Pour connaître le calendrier estival des interventions prévention montagne, rendez-vous sur le site du département www.hautepyrenees.fr.
Merci Anne-Rose Jankovic. Anne-Rose, vous restez avec nous puisqu'on vous retrouve dans un instant. Direction le Gers puisque vous allez recevoir Mgr Bertrand Lacombe. Pour le moment, on place à l'actualité régionale et pour cela, on accueille Sacha Baudet-Pouplier qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve pour le journal régional, le journal de la mi-journée.
«
Bonjour à tous, à la une aujourd'hui, le canal du Midi s'apprête à célébrer un anniversaire symbolique. 30 ans après son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, une grande année de festivités vient d'être lancée à Toulouse par la préfecture de région et voies navigables de France. Plus de 120 événements culturels, sportifs et scientifiques seront organisés tout au long de l'année 2026 autour de cet ouvrage colossal imaginé par Pierre-Paul Riquet. Concerts, randonnées, colloques ou encore compétitions sportives rythmeront cette célébration destinée à valoriser le patrimoine du canal, mais aussi à sensibiliser le public aux défis liés au changement climatique et à la gestion de l'eau. La European School of Law confirme son rayonnement international. Créée en 2014 au sein de l'Université Toulouse Capitole, cette école spécialisée dans les doubles diplômes européens en droit est aujourd'hui la référence française dans ce domaine, avec près de 700 étudiants et 18 doubles diplômes proposés. À l'occasion du mois de l'Europe, l'établissement lance également un nouveau guide pratique consacré aux carrières européennes afin d'aider les étudiants à mieux préparer leur insertion professionnelle au sein des institutions européennes et internationales. Dans l'Aveyron, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant l'hôpital de Decazeville pour défendre les urgences de l'établissement. Élus, habitants et personnels soignants dénoncent les difficultés rencontrées par le service et réclament des moyens supplémentaires afin de garantir un accès aux soins de proximité dans ce bassin de population. Une mobilisation importante dans un contexte de tensions persistantes dans les hôpitaux ruraux. Sur les routes maintenant, d'importants travaux pour reprendre sur la RN20 en direction de Lendore. Des perturbations de circulation et plusieurs déviations sont prévues dans les prochains jours pour permettre la réalisation d'aménagements et de travaux de sécurisation sur cet axe très fréquenté, notamment à l'approche des week-ends prolongés et des vacances. Dans le Lot, la fête des fromages célébrera cette année les 30 ans du Rocamadour AOP. Producteurs, artisans et visiteurs se retrouveront autour de dégustations, animations et démonstrations pour mettre à l'honneur ce fromage emblématique du territoire lotois et son savoir-faire traditionnel. Près d'une centaine de personnes se réunissent chaque année lors de cet événement. Pour finir en sport, le handball club de Lourdes disputera une finale historique à Bercy. Le club aux Pyrénées s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France fédérale, une première dans son histoire. Un événement majeur pour les joueurs et les supporters de toute la ville qui espèrent désormais décrocher un titre national.
Voilà, merci à Sacha Baudet-Pouplier, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Retour de l'info dans une demi-heure dès 13h avec la rédaction française de Radio Vatican pour l'actualité nationale et internationale. Pour le moment, dans cette émission, direction le département du Gers avec Anne-Rose Jankovic et Monseigneur Bertrand Lacombe.
Radio Présence à Mirande, 104.2.
Bonjour Monseigneur Bertrand Lacombe.
Bonjour Anne-Rose.
Merci de m'accueillir ici à la maison diocésaine d'Auch, puisque vous êtes l'archevêque du Gers. Et nous allons, en ce mois de mai, parler de plusieurs sujets de solidarité, des rogations, des vocations. Trois thèmes qui vous tiennent à cœur, au cœur de ce mois de mai, qui, on peut le dire quand même en introduction, est le mois de Marie.
Mais oui, voilà, nous avons la grâce d'avoir beaucoup de choses qui comptent. Peut-être qu'on pourrait commencer d'abord par la vie des gens et les événements qui se passent dans les paroisses. Je pense les mariages qui ont commencé, je pense les baptêmes aussi, les communions, les professions de foi, les confirmations aussi, tous ces moments que nous avons préparés depuis de longs mois et qui vont être célébré pendant ce mois de mai, le mois de juin. Mais c'est vrai que ces trois thèmes principaux ont marqué à la fois de manière habituelle, mais de manière un peu renouvelée, la vie du diocèse.
Pourquoi vous avez souhaité qu'on parle de solidarité? Est-ce qu'il y a des actions en particulier qui sont menées au cours de ce mois de mai pour la fin de l'année pastorale là, dans votre diocèse?
Oui, il y a deux moments sur lesquels on reviendra sur l'antenne de Radio Présence Tarbes-Lourdes. À la fois le Festival des Terres Solidaires, qui était le week-end du 8 mai à Lectoure, qui a vraiment été un très beau festival, qui a réuni beaucoup de monde et qui a permis de vivre ici, de mieux connaître ici ce qui est vécu et les actions de solidarité qui sont menées au loin. Donc c'était vraiment un événement à rayonnement provincial, mais même un peu plus largement, puisque comme ça se passait à Lectoure, c'était en lien aussi avec la province de Bordeaux, donc il y a des personnes du Lot-et-Garonne qui sont venues de différents horizons, et vraiment on a pu approfondir ce qu'était ces terres solidaires en lien avec le développement, en lien avec la Laudate aussi, en lien avec l'écologie intégrale, et vraiment, que ce soit les tables rondes, les conférences, les échanges, les expositions, les temps de prière, et particulièrement la messe du dimanche, qui était présidée par Mgr Laurent Camiade, l'évêque de Cahors, vraiment, on a eu un beau moment de solidarité pour ceux qui sont loin.
On entend que la solidarité, finalement, on n'a jamais fini de la creuser. Alors, je vous dis ça parce que, quelquefois, en réaction à des émissions, les auditeurs disent « Oh, ben oui, mais ça, vous l'avez déjà dit, on a déjà entendu ça, des événements comme ça, il y en a un peu tout le temps, c'est un peu à répétition. » Mais finalement, on se rend compte que c'est toujours utile parce qu'on peut-être qu'on n'a jamais fini de vraiment se connaître.
Mais oui, c'est la parole de Jésus, un peu énigmatique, qui dit « Des pauvres, vous en aurez toujours ». C'est une manière de toujours ouvrir notre cœur. Et donc cet événement du Festival des Terres Solidaires avec le Comité catholique contre la faim et pour le développement, très beau moment que nous avons eu. Et puis, vendredi 22 mai, c'est les grandes tables du Secours catholique.
Qu'est-ce que c'est, les grandes tables ?
Je signale quand même qu'il y a eu une marche spirituelle récemment, là, et avec des personnes à la fois des Hautes-Pyrénées et du Gers, puisque c'est la délégation commune, donc là aussi, c'est des choses que nous faisons ensemble. Ces grandes tablées qui vont permettre d'inviter très largement ce vendredi 22 mai sur le parvis de la cathédrale, dans le narthex de la cathédrale, on partage le repas, et puis il y a des animations qui sont proposées toute la journée, entre 10h et 16h, sur le parvis de la cathédrale à Auch. Donc c'est vraiment un très très, très bel événement avec le Comité catholique contre la faim et pour le développement, on se préoccupe de ceux qui sont loin, et là on se préoccupe de ceux qui sont proches. Ce que nous faisons habituellement avec nos sœurs de charité de Sainte-Marie qui accueillent soit à la Boubée, soit sur le parvis de la cathédrale le samedi après-midi. Mais là, voilà, nous aurons ce moment de solidarité dans la cité.
Et ça, c'est important que ce soit visible pour tous les habitants de la cité. Ça a du sens, ça ?
Ça a beaucoup de sens. Il ne s'agit pas de montrer, il ne s'agit pas de se montrer, mais que ça puisse avoir lieu à la cathédrale, c'est un événement qui compte et qui est une manière aussi de présenter au Seigneur les personnes qui vivent ces situations de pauvreté, chacun d'une manière ou d'une autre, nous en vivons, mais c'est vrai qu'il y en a certains, c'est particulièrement fort, et la cathédrale est ce lieu emblématique d'Auch, d'abord dans une dimension spirituelle, mais aussi dans une dimension de passage, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent.
Voilà, donc on reviendra sur ces deux événements avec les référents à la fois du Secours catholique et puis du CCFD Terres Solidaires qui vont décortiquer en détail ces deux événements dont vous nous parlez, Monseigneur. Alors le deuxième sujet dont vous avez souhaité parler, c'est les rogations. Peut-être qu'il faut rappeler ce que sont les rogations.
Voilà, rogare, c'est prier en latin, c'est des jours qui faisaient partie du calendrier liturgique officiel avant l'Ascension, donc ce moment où la terre commence à porter des fruits. Et donc l'année dernière, nous avions prévu le jeudi de l'Ascension une messe avec les agriculteurs dans toutes les paroisses, mais on s'est aperçu que c'est pas suffisant. Et c'est vrai que pour avoir été ces derniers temps dans différents lieux du diocèse, de manière très ciblée, mais de manière tout à fait concrète, il y a des lieux qui ont été grêlés, et on pense particulièrement aux agriculteurs qui voient ces récoltes qui commencent à peine à sortir et qui subissent ces intempéries terribles. Et voilà, je pense que j'étais à Marciac, j'ai été au sud de Vic, à la chapelle de Lasse. Voilà, donc nous pensons à ces agriculteurs, à la fois pour les intempéries qui font un peu partie, je dirais, de la vie, mais qui, depuis plusieurs années, là, sont dramatiques avec cette grêle. Et puis nous savons aussi tous les moments difficiles que vivent les agriculteurs, leurs revenus, leurs considérations. Et donc, dans différents événements, que ce soit dans des exploitations agricoles, que ce soit en passant dans différentes exploitations, que ce soit une messe spécifique dans une église, donc dans cette semaine de l'Ascension, dans une cathédrale de paille, comme il y a eu aussi à tel ou tel endroit, en pleine nature. Je crois que vraiment nous avons eu de beaux moments à cette période de l'année, avec les difficultés que j'évoquais, mais aussi avec l'espérance des récoltes qui va venir. Vraiment de beaux moments dans tout le diocèse pour cette période d'érogation. Donc une manière de présenter au Seigneur nos épreuves, mais aussi ce, comme nous disons dans l'offertoire, ce fruit de la terre, ce fruit de la vigne, fruit du travail des hommes et des femmes, et que nous présentons au Seigneur.
Comment on fait pour que cette espérance dans le milieu agricole, elle soit pas juste liée à un événement ou au temps d'érogation, mais que vraiment elle s'inscrive durablement, d'abord dans le cœur de ces paysans qui ont vraiment besoin d'espérance, et puis dans nos prières à nous tous, même si on n'est pas paysan, on est quand même lié à la terre. Comment on fait pour aller au-delà de l'événement?
Oui, on est vraiment dans ce monde rural, donc ça nous concerne tous. Ben, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais que l'Église ne peut pas forcément faire. Mais je crois que c'est d'abord d'avoir de la considération, de la reconnaissance, de l'attention pour ce que vivent les agriculteurs. C'est ça le plus important. En ce qui concerne les collectivités, les chambres consulaires, il y a une manière d'accompagner, il y a une manière de faire des mesures cohérentes. Et c'est vrai que y a des mesures très incohérentes qui ont été prises ces derniers temps, qui ajoutent du mal au mal. Mais en ce qui nous concerne, nous, plus personnellement, marquer notre reconnaissance, notre attention, notre proximité avec le monde agricole, c'est prier pour les agriculteurs, c'est être avec eux, c'est leur permettre de se rencontrer. Dans ce temps, une manière de vivre les rocations, c'est d'aller dans plusieurs exploitations voisines au cours d'une matinée ou au cours d'un après-midi, et puis de se retrouver pour le verre de l'amitié. C'est permettre de se retrouver, parce que les agriculteurs se retrouvent quand ils ont un besoin, quand il y a une nécessité qui est là, mais là on peut rentrer dans cette rencontre plus gratuite mais tellement nécessaire. J'ai pu l'expérimenter au cours des visites pastorales, et là les échos que j'ai eus de ces moments de rogation, c'était marquer notre estime, marquer notre proximité et permettre la rencontre.
Vous évoquez des mesures politiques qui peuvent être injustes ou sembler injustes pour les agriculteurs. Sur des sujets de société, je pense notamment à la bioéthique, il arrive que les évêques de France interpellent les élus, les députés, les sénateurs. Est-ce que sur des sujets comme celui de l'agriculture qui est tellement important ici, ça vous est arrivé ou ça peut vous arriver d'interpeller tel ou tel élu ?
Oui, c'est des choses qui arrivent. Alors, je dirais les mesures ne sont pas mauvaises, pas nécessairement mauvaises, mais je dirais c'est plutôt la question de la cohérence. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des fois, c'est un peu une action ponctuelle, et puis, on passe à autre chose. Donc, comment permettre à l'agriculture française de vivre cette cohérence avec une diversité d'agriculteurs, des agriculteurs sont sur des créneaux porteurs, qui ont de grandes exploitations, qui fonctionnent bien, mais d'autres qui connaissent plus de difficultés. Comment permettre d'avoir une politique agricole commune qui soit vraiment au service de l'agriculture et pas aller au coup par coup comme cela est fait. Alors la relation avec le monde politique, mais même avec le monde administratif, c'est des choses qui arrivent régulièrement, et je dirais souvent on est quand même du même avis, hein, et on a cette proximité. Je crois vraiment, en ce qui concerne l'administration locale, en ce qui concerne les élus locaux, il y a vraiment cette attention pour les agriculteurs, mais on aimerait que au niveau national, il y a davantage de cohérence et une vraie politique commune qui tienne compte de chacun dans sa spécificité.
Merci pour vos réponses sur ce sujet, donc dérogation, et puis on voit que ça déborde un peu, mais voilà, l'érogation, c'est tout le monde agricole. On va parler maintenant des vocations, c'est le troisième thème dont vous avez souhaité parler dans cet entretien mensuel. Les vocations, c'est un peu un fil d'Ariane dans ce mois de mai.
On aimerait que ce soit ce fil blanc tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui sont un peu plus marquants. Et donc nous avons eu le quatrième dimanche de Pâques, la Journée mondiale des vocations, qui a permis de le faire. Mais de manière habituelle, le lundi de Pentecôte, c'est le pèlerinage des vocations. Donc nous irons de Baran à Biran. Cette année, c'est un pèlerinage qui est familial. Je repense au bon moment que nous avons vécu à Lourdes le 11 avril dernier pour le pèlerinage en famille à Lourdes. Ben là, c'est un peu dans cette perspective. Nous le vivons dans le diocèse et nous le préparons par une neuvaine. J'évoquais les agriculteurs. Il y a eu la neuvaine pour le monde rural qui est allée jusqu'au début de la semaine de l'Ascension. Et là, donc, nous avons commencé aussi cette neuvaine pour les vocations où nous prions tout au long de cette semaine qui nous mène au pèlerinage des vocations pour différentes vocations dans l'Église, que ce soit les catéchumènes et les nouveaux baptisés, que ce soit les diacres, les prêtres, les religieux, les religieuses, les époux, les familles, les laïcs en mission ecclésiale. Donc nous commençons par cette neuvaine de prière, et puis nous aurons ce moment du pèlerinage des vocations. Je rends grâce pour les diacres et les futurs diacres qui sont en chemin.
Il y en a combien de diacres en préparation ?
Alors, il y a actuellement trois couples qui sont en formation et qui discernent aussi. J'en rends grâce aussi pour les vocations de religieux, religieuses qu'il peut y avoir dans le diocèse, notamment à l'abbaye de Boulogne. Je rends grâce pour les communautés qui sont là, mais c'est vrai que nous aimerions quand même, et nous demandons au Seigneur, des séminaristes, et puis aussi des vocations religieuses et religieuses, dont nous savons toute l'importance pour notre vie spirituelle et pour notre vie ecclésiale. Donc, occasion de rendre grâce, mais aussi de demander, et puis invitation aux familles aussi à pouvoir en parler avec les enfants, de pouvoir se dire, mais qu'est-ce qu'apporte un prêtre, un religieux, une religieuse ?
Actuellement, vous n'avez pas de séminariste ?
J'espère que nous en aurons bientôt. J'ai eu la joie d'ordonner deux prêtres et je vois toute la fécondité que cela peut apporter dans la vie du diocèse. Et nous avons aussi un certain nombre d'actions avec la pastorale des jeunes. C'est pour dire que c'est vrai que la prière pour les vocations, mais comme la prière pour le monde rural, comme la prière en général, il faut qu'elle soit liée à la vie. C'est la prière et la vie. Donc comment dans notre vie familiale, comment dans notre vie paroissiale, dans notre vie ecclésiale, nous disons, nous aimerions avoir un prêtre pour telle chose, pour telle paroisse, pour tel service diocésain, pour tel mouvement. Et donc c'est important de pouvoir le manifester, de pouvoir le dire et de pouvoir en parler autour de nous.
Donc vous dites par là qu'il y a quelque part une responsabilité dans les familles de pouvoir parler de cette vocation sans faire du forcing, mais comme étant un chemin possible et qu'on n'a pas honte de présenter et dont on n'a pas honte de parler.
Voilà, c'est une manière d'en parler. Il ne faut pas être trop insistant parce que, dans ces cas-là, ça produit l'effet inverse. Mais montrer que c'est une possibilité, on s'aperçoit que les enfants et les jeunes qui sont dans nos groupes d'église, beaucoup, une large proportion, plus de la moitié, dans les groupes de confirmants, ça a été étudié il y a quelques années, il y a plus de la moitié des jeunes qui se posent la question de la vocation. Donc c'est important de se poser de la vocation pour se dire, mais finalement, notre univers est complètement ouvert. Ouais. Je peux travailler dans le domaine des sciences, je peux être médecin, je peux être scientifique, je peux travailler au service des autres, mais je peux aussi être prêtre, religieux, religieuse. Et puis, c'est une possibilité qui ouvre les horizons. Et puis après, c'est le Seigneur qui appelle et nous voyons ce qui est possible.
On arrive au terme de notre entretien, Monseigneur Bertrand Lacombe. Peut-être avant de nous quitter, un mot pour dire qu'il y a quelques jours, vous avez inauguré les travaux qui ont été faits dans l'église Saint-Aurin, c'est en centre-ville d'Auch.
Voilà, Saint-Aurens, dont je parle avec tremblement, puisque c'est un de mes prédécesseurs du 4e, 5e siècle, un grand saint qui fait le lien avec le diocèse de Tarbes et Lourdes, puisqu'il est très honoré aussi à Tarbes et Lourdes. Il avait pris sa retraite, une certaine retraite, après avoir eu un ministère très fécond dans le Lavedan, et puis les Occitans sont venus le chercher, et son bâton a refleuri, un peu comme la croix est amenée à fleurir, à porter des fruits. Et donc, il a suivi les Occitains pour être ici à Auch. Et il a mené un ministère d'enseignement contre l'hérésie arienne, contre le paganisme, donc pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la vraie nature de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et puis, il a eu aussi une mission de médiateur à Toulouse dans des troubles qu'il y avait à ce moment-là. Donc, une très belle figure d'évêque. Et donc, cette église Saint-Aurens d'Auch est une église de dévotion qui est vraiment ancrée dans cette tradition, dans la tradition du prieuré de Saint-Aurens qui était là. Et puis, il y a des vitraux magnifiques de Guérin, il y a un orgue augmenté qui donne aussi un son magnifique que nous avons entendu à l'occasion de cette inauguration, à la fois avec les autorités municipales, et puis un très beau concert, une très belle messe que nous avons eue aussi dans l'église, où nous nous sommes retrouvés et à la fois ancrés dans notre tradition, mais ouvert, voilà, que ce soit par la musique, que ce soit par les vitraux. Et il faut dire que l'église aussi avait vraiment besoin de ces travaux. Le plafond a été repeint, les murs ont été nettoyés, et on rentre dans l'église Saint-Aurens maintenant avec joie, un peu comme peut être notre âme ancrée dans la tradition et ouverte sur l'avenir et sur l'espérance.
Eh ben voilà, un beau lieu de reportage pour cet été, pourquoi pas. Voilà, aller promener le micro de Radio Présence du côté de Saint-Aurens cet été. Allez, on se quitte, Monseigneur Bertrand Lacombe, mais avant cela, peut-être dire à nos auditeurs que le 12 juin, vous fêterez vos 10 ans d'épiscopat. C'est pas rien quand même.
Ben oui, j'ai vraiment une riche année jubilaire cette année. Et voilà, arrivé à Auch dans les conditions du Covid. Donc le 12 juin, ça sera l'occasion pour ceux qui peuvent de se retrouver à la cathédrale à 18h30, tout simplement pour une messe d'action de grâce, le verre de l'amitié. Des évêques amis m'ont déjà dit qu'ils seraient là, amis et voisins, donc des évêques de la province. Et puis, en diocèse, nous nous retrouverons pour fêter ce moment-là parmi ces autres événements heureux que j'évoquais au début de notre interview. Donc, moment festif en perspective, mais parmi d'autres.
Voilà, ben nous rendons grâce avec vous, Monseigneur Lacombe. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite aussi une très belle fête de Pentecôte, puisque dans quelques jours, l'Esprit Saint rayonnera partout dans l'Église et donc aussi dans le diocèse d'Auch, dont vous êtes l'archevêque. Merci beaucoup.
Merci Anne-Rose. Oui, bonne fête de Pentecôte.
Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Bonjour Anne-La Serre.
Bonjour Philippe.
Bon, ça tombe bien. Nous aujourd'hui, on va aller dans les gorges de Luce. Il fait beau. C'est le mois de mai. Parce que aller dans les gorges de Luce l'hiver, c'est un peu angoissant. Quand
voilà.
Même.
Il vaut mieux y aller au mois de mai, mais nous allons y aller en hiver.
Oui, voilà. Alors une fois de plus, nous allons remonter le temps et revenir plus précisément 120 ans en arrière. Vous nous amenez dans la gorge de Luce, dans les Hautes-Pyrénées, bien sûr, en compagnie d'excursionnistes, Tarbé.
Et oui, nous sommes en 1893, au mois de janvier, à une époque, Philippe, où les hivers sont rudes et la neige abondante.
L'hiver 1892-1893 a été particulièrement rigoureux. Le 30 décembre, la Seine commence à charrier des glaçons.
Oui, et en janvier, des températures atteignent en France les moins 25 degrés. Il n'est donc pas étonnant que la gorge de Luce ait cette apparence glaciale, comme nous allons le voir.
En janvier 1895, l'hiver est tout aussi vigoureux. Dans les Pyrénées, les chutes de neige sont très abondantes. Une avalanche dévaste d'ailleurs le village d'Orlu en Ariège.
Et une autre avalanche traverse Barège cette année-là.
Mais le froid n'arrête pas les excursionnistes tarbés qui décident de parcourir la gorge de Luce en janvier 1893. Voilà, la machine à remonter le temps est réglée. On appuie sur le bouton, on ferme les yeux, on vous écoute, Anne. À tout de suite.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
En 1893, la Société des excursionnistes d'Arbé a publié 35 récits d'ascension et d'excursion dans les Pyrénées. Ce sont souvent des pyrénéistes d'occasion, profitant d'une journée de repos pour gagner la montagne. Le tout nouveau chemin de fer abolit les distances et l'on peut, l'espace d'une journée, abandonner la tenue de ville pour celle du montagnard, comme en ce mois de janvier où des excursionnistes remontent la gorge de Luce. Pour admirer la gorge de Luce dans toute son horreur sauvage, écrit l'un des excursionnistes, il faut la parcourir à la mauvaise saison. Pour voir cet enfer, il faut choisir un temps du diable, et nous sommes partis au cœur de l'hiver. Nous quittons Pierrefitte vers 9h du matin, chaudement vêtus, les oreilles enfoncées dans le béret, les pieds solides, dans de bonnes chaussures bardées de clous, armées du robuste bâton à pointe d'acier. Vaste silence. La nature semble morte, ensevelie à perte de vue sous la neige qui blanchit toute chose. Hormis les escarpements trop raides pour la supporter et les bouquets de sapins qui en sont simplement saupoudrés, noirâtres en dessous. Vers l'ouest, les dentelures élevées du pic de Soulon s'estompent aériennes, brillant au soleil qui monte paresseux dans le ciel d'un bleu décoloré. Sur la gauche, au contraire, les montagnes d'Isaby à contre-jour paraissent écrasantes par manque de premiers plans sombres, les bases réfléchissant autant de lumière que les sommets. On jurerait presque des murailles de porcelaine à portée d'un jet de pierre. Dès l'entrée de la tranchée schisteuse de Villelongue, la marche exige certaines précautions. Une glace dure recouvre le sol et nous préférons abandonner la piste battue pour cheminer sur les bas-côtés de la route, foulant la neige granulée qui crie sous nos pas. L'eau congelée a fait éclater les roches, multipliant les fissures qui se lisèrent de bourrelets transparents, et des pans entiers sont prêts à se détacher. À la première sinuosité, à hauteur d'aigues rouges, pendent à notre gauche de longues et menaçantes stalactites, et nous passons vite. Le Gave coule silencieux à droite, entre les glaces qui restreignent ses rives. La bise est aigre et nous sommes dans l'ombre pour longtemps encore. Au-delà du refuge des cantonniers, l'aspect de la gorge est plus saisissant. Nous nous figurons voyager à travers une grotte de cristal aux parois cannelées en tuyaux d'orgue. Après le pont de l'échelle, la muraille de gauche, tailladée à coups de mine, prend une teinte de basalte luisante et verglacée. Du pont en ruine d'Arsimpé aux labattes d'enfer, l'endroit est lugubre. Les revêtements de glace vernissant les rochers se prolongent jusqu'au Gave qui se perd très bas, et dont on entend à peine la rumeur étouffée. Quel froid ! Les glaçons hérissent nos cils et nos moustaches. Aux labattes d'enfer, la crevasse s'évasant légèrement donne une courte échappée sur les contreforts de Saint-Sauveur. Des pentes du Viscose, tout près, par le ravin de Badette, a coulé une monstrueuse avalanche jusqu'au Gave, qu'elle a refoulée sur le bord droit. La neige de la surface est d'un gris sale, agglomérant rochers et cadavres de sapins, dont les os fracassés dépassent en saillie. Peut-être quelque bergerie a-t-elle été emportée aussi, car un vol de corbeaux tournoie dans les airs, faisant entendre des cris en sifflement de balles. À côté du pont de la Hiladère, les cristallisations de glace cessent. Un paysan en sabots descend des hauteurs de chaise par un raidillon casse-cou. C'est le premier être humain rencontré depuis Pierrefitte et nous le suivons de l'œil avec effroi, tremblant de le voir à tout instant culbuté dans le précipice. Maintenant, la vallée s'est élargie et le soleil nous réchauffe un peu. Devant nous, le Bergonze dresse sa masse éblouissante, au méplat scintillant, avec des facettes bleuâtres d'ombre, et bientôt, À travers les squelettes, des peupliers sans feuilles fument les cheminées de Luz. Il est 1h de l'après-midi quand nous atteignons la ville, ayant dépensé 4 heures pour 12 kilomètres. De dîner en plein air, il n'en faut point parler, et nous nous engouffrons résolument dans l'hôtel de l'univers où nous cherchons d'abord le feu. Nous substituant presque aux bûches, nous commençons à dégeler et notre appétit peut s'exercer. 2 heures. Prenons nos sacs et mettons le cap sur Saint-Sauveur. Dans la cour de l'hôtel, l'ours en rocaille est devenu sibérien. Il semble ricaner à notre passage. Derrière les vitres ternies de givre, des visages étonnés nous regardent, se demandant où nous pouvons bien aller ainsi. Nous laissons à gauche la vallée du Bastan et la route déserte de Barège, s'enfonçant dans une blanche solitude entre des pentes inabordables. Nous longeons l'établissement de Barzin, au toit festonné, et nous parvenons aux premières maisons de Saint-Sauveur, nécropole à présent. La rue est changée en un escalier raboteux. Amassé par le vent, de gros tas de neige durcie s'accotent contre les maisons. Portes et fenêtres sont closes. Sur les façades aveuglées, les lettres d'or des hôtels se détachent crûment, attendant qui les lise, et mélancoliquement pendent au mur des restes d'affiches de fêtes données à Luchon, Bagnères ou à Cotteret durant la saison dernière. Qui reconnaîtrait, dans cette sorte de quartier norvégien d'où les habitants auraient émigré, la riante station thermale de l'été, à la vie si douce, la calme ville d'eau chère aux jeunes femmes et emplie d'un attrait si particulier. Le vent d'ouest soufflant en tempête et une montagnarde serrée dans sa cape brune leur apprenant qu'un peu plus haut la route est impraticable, nos excursionnistes font demi-tour et regagnent Luz. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage intitulé « Carnet de course dans les Pyrénées » publié par les éditions La Découvrance en 2005.
Et voilà comment était la gorge de Luz au mois de janvier 1893. Je la préfère au mois de mai, moi.
Moi aussi, Philippe. Et nous le savons donc grâce à un groupe d'excursionnistes qui le dimanche partait en montagne à la découverte des Pyrénées.
Alors les Pyrénées sont en quelque sorte parcourues par une génération nouvelle qui, profitant du dimanche, seul jour de congé de la semaine, se transforme donc en excursionniste.
Et pour notre plus grand bonheur, ils ont fait le récit de ces excursions et nous pouvons les suivre au pic du Midi de Bigorre, au col d'Aspin ou au lac d'Eston, au lac d'Artus ou encore au port de Vénasque.
Voilà, il faut se remémorer que on débute là, hein.
Oui.
Parce que d'habitude on restait en bas, vous nous l'aviez bien expliqué à travers cette émission, la PPT, la perception des Pyrénées à travers le temps.
Voilà, donc on commence à les gravir dans la deuxième moitié du 19e siècle, voilà.
Voilà.
Il faut être déjà un montagnard presque averti.
Oui, parce qu'aujourd'hui, la gorge de Luz, ça nous paraît très simple, on y va en voiture, c'est même pas de la montagne, voilà. Mais à l'époque, il n'y avait rien et il fallait le gravir.
Et surtout quand on le fait à pied, Philippe.
Exactement. Et d'ailleurs, ce sont des textes anonymes qui ont été publiés en 1893 que vous avez retrouvés. C'est encore une autre façon de parler des Pyrénées. On vous remercie de ce travail parce que vous allez fouiner, vous allez chercher. Et puis je sais que c'est pas évident de trouver un sujet de chronique chaque semaine.
Oui, parfois c'est difficile, mais c'est toujours avec autant de plaisir que je le fais.
On va changer de sujet la semaine prochaine puisque nous allons nous intéresser à l'habitat dans les Hautes-Pyrénées. Voilà, écoutez, le rendez-vous est pris, c'est coché sur l'agenda. À la semaine prochaine, Anna.
À la semaine prochaine, Philippe.
Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence, il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, Il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présent ce matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Le château 102.3
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Reconstruire la confiance et restaurer les institutions internationales au service de la paix, c'est la paix.